L'encre et la voile, fondement et liberté du christianisme par Mgr André Duplex, théologien, recteur honoraire de l'Institut catholique de Toulouse. Voici cette intervention enregistrée dans le cadre de Foi et Culture à Pau le 5 avril 2024. L'encre et la voile, fondement et liberté du christianisme, Mgr André Duplex.
J'ouvrirai mon intervention sur les paroles de saint Paul aux Corinthiens. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. Cette image du rapport entre le trésor et l'argile, image inattendue et qui peut sembler paradoxale, me semble convenir au mieux à ce que vit le christianisme depuis les origines et plus intensément encore aujourd'hui. À ce que vit aussi chaque baptisé, chaque homme ou femme se réclamant de l'évangile de Jésus-Christ. Qu'il soit ou non habituellement attaché à une église ou à toute autre institution chrétienne. Ce qui est vécu, la tension constante entre la stabilité et la fragilité, entre ceux dont nous savons la valeur et notre difficulté, voire parfois notre incapacité à rendre compte de cette valeur ou à transmettre cette valeur. Comment faire ou mieux faire pour être entendu et pour donner accès à ce qui fonde notre espérance ? La question simple que nous pouvons poser est la suivante. Le christianisme, aujourd'hui, a-t-il quelque chose à dire au monde dans lequel nous vivons? Quelque chose de singulier, de bénéfique, et j'ose volontiers le terme, quelque chose de décisif. Certes, me direz-vous, la question n'est pas nouvelle. De fait, elle a été posée sous de multiples formes dès les origines du christianisme, suscitant des réflexions ininterrompues jusqu'à ce jour. Ma démarche ce soir n'est pas de boucler le débat qui reste et restera permanent, sur la pertinence et la liberté actuelle du christianisme dans un monde qui ne cesse de vivre dans tous les domaines de très grands changements, en grande part irréversibles. Je veux simplement rendre compte de mes raisons de croire aujourd'hui en Jésus-Christ, en son évangile et son Église, ce qui m'a permis de structurer et de déployer ma foi, sans jamais séparer mes convictions personnelles, spirituelles, et mon attachement aux réalités de ce monde. Je reviens un instant ici sur le thème de saint Paul. Ce trésor, nous le portons dans les vases d'argile. Oui, l'évangile de Jésus, le Christ, est jusque dans la fragilité de son expression ou de ses formulations, une richesse infinie et une source ininterrompue qui ne cesse de nous être accessible et de susciter notre confiance en l'avenir. Beaucoup plus que de l'or ou de précieuses réserves. C'est un trésor d'amour et de paix, une parole qui nous appelle à vivre, à naître, à renaître, à participer de toutes nos forces à la construction du monde, en restant libre de notre discernement ou de nos choix. Mais l'expression de Paul, quelles que soient les traductions utilisées, nous dit bien que le vase d'argile, c'est nous. Nous ne portons pas ce trésor dans un vase distinct de nous et que nous pourrions déposer par ailleurs quand nous le voulons. Non, il s'agit bien de nous. Nous qui en évoquons le récit de la création de l'homme dans le livre de la Genèse sommes modelés dans la poussière prise du sol tout en recevant l'haleine de vie du Créateur. Vous connaissez ce passage. « Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Le premier trésor que nous portons, c'est donc ce souffle de vie qui est la vie même de Dieu et qui donne à notre corps son amplitude et sa force. Saint Paul dira lui-même, vous connaissez cette phrase, « Ma grâce te suffit. » En bas. Il laisse parler Jésus, là, bien sûr. « Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans la faiblesse. » Il ira même jusqu'à affirmer « Lorsque je suis faible, c'est là que je suis fort. » Pour nous, chrétiens, et toute ma réflexion se situera dans cette perspective, la référence centrale est bien la croix de Jésus. Cette croix sur laquelle meurt le juste et qui permet ce mystérieux mais historique passage vers la résurrection. Trésor de notre foi et source permanente de notre résistance à la mort sous toutes ses formes, physiques ou morales. Ce qui était le signe majeur de la faiblesse et de la victoire de la mort devient dans un renversement complet de perspective un signe de vie et de vie éternelle. Dieu parle à travers la mort du Christ. Paul utilisera d'ailleurs le terme de langage de la croix. Le langage de la croix, en effet, dit Paul, est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui sont en train d'être sauvés, pour nous, il est puissance de Dieu. La croix est évidemment un acte de folie et une manifestation de faiblesse. La faiblesse de l'homme crucifié, représentant alors tous ceux et celles qui écrasent la puissance des institutions humaines, les logiques de pouvoir, de manipulation, les décisions arbitraires prises dans le seul but de satisfaire les intérêts immédiats et les égoïsmes collectifs et individuels. Le lieu de la rupture devient expression de la plus grande force de l'amour. Le lieu de l'incompréhension devient celui de la nouvelle connaissance. La croix est signe de croissance par le rapport inattendu qu'elle introduit entre l'amour créateur et le détachement. Entre l'énergie et l'abandon de soi, elle est signe de non-violence en plein cœur de la violence. Dans l'écartèlement de l'histoire, elle exprime la plus réelle concentration de liberté et d'amour. Au point où nous sommes, elle se dresse, sève restée brûlante dans un bois mort. Elle est un cri vers Dieu, un cri de Dieu vers l'homme. Si la foi chrétienne intègre et assume pleinement cette rupture et ce signe de faiblesse que représente la croix de Jésus, c'est bien parce que cette croix n'est pas une interruption du message de Jésus à ses disciples et au monde. Ça serait en quelque sorte une ultime parabole, un nouveau sens donné à l'existence et une source définitive d'espérance par la résurrection, dont le discours de Pierre dans le livre des Actes nous dit qu'elle est un acte de Dieu. La résurrection est un acte de Dieu. Oui, nous sommes faits d'argile, et la terre recevra le corps mort de Jésus comme elle recevra notre corps à notre mort. Ce qui est poussière rejoindra la poussière. Pourtant, notre corps sera lui aussi associé à cette résurrection, car saint Paul nous dit « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Le voilà, le trésor dans l'argile. La richesse non pas hors de nous, mais en nous. La puissance créatrice de Dieu dans nos corps mortels, la parole transformante et renouvelante de Dieu jusque dans les limites de notre chair qui accueille l'Éternel dans sa contingence. Saint Jean, prologue du quatrième évangile, le Verbe s'est fait chair. Depuis plus de 50 ans que je suis prêtre, j'ai expérimenté concrètement combien à travers et malgré mes fragilités personnelles ou les pesanteurs institutionnelles, j'ai pu garder la liberté de transmettre cette parole de vie qui a structuré jusqu'à ce jour mes choix et mes engagements. Alors je vous propose 6 points, un peu comme 6 mouvements d'une œuvre musicale ou d'une symphonie spirituelle, dont le thème principal qui assure la cohérence et se déploie de multiples façons, en de multiples sons ou harmonies, constituant l'architecture musicale de l'ensemble. Ce thème, c'est l'amour maintenu de Dieu dans le monde et pour le monde. Chacun de ces mouvements caractérisé par un mot clé, je le préciserai. Et ça correspondra à tous les aspects, c'est-à-dire toutes les richesses simultanées qui m'auront conduit personnellement où je suis, sans avoir cessé un seul instant de chercher et de considérer chaque instant comme une trace d'éternité. Et c'est ici que je reprends un peu le thème quand même, le titre de mon intervention qui peut sembler étonnant, « L'encre et la voile ». Que n'a-t-on pas dit d'ailleurs depuis que j'ai décidé de prendre ce titre ? Ces deux termes renvoyant de fait au monde de la mer, en évoquant deux réalités apparemment opposées, mais dont nous constaterons dans l'usage que je vais en faire en parlant du christianisme, qu'elles sont non seulement indissociables, mais indispensables l'une à l'autre. Par cette image, je rejoins sans effort ce que je disais du rapport entre le trésor et l'argile. Dans ces deux binômes que sont le trésor et l'argile d'un côté et l'encre et la voile de l'autre, l'élément essentiel, l'humain, n'a commencé d'exister que par le souffle de Dieu sur la poussière. Si nous sommes à l'image de Dieu, nous le sommes autant par notre corps que par notre souffle qui reste celui du Créateur. Non seulement nous portons ce trésor, mais il est en nous. Le premier signe de ce trésor est en notre vie, le souffle de notre vie, une vie que la parole de Dieu que nous recevons peut transformer, même si nous gardons la fragilité de l'argile. Une vie que le souffle de Dieu peut conduire si nous hissons la voile. Mais alors, que devient l'encre ? Pourquoi une encre ? C'est bien là que réside le paradoxe dans l'application de cette image au christianisme. Si l'encre, objet dont nous savons qu'il permet de garder la stabilité du bateau, est donc la cause et le signe de la stabilité, la voile qui permet de son côté le déplacement est donc le signe de la liberté. Stabilité et liberté, l'un n'exclut pas l'autre. Le christianisme, comme d'ailleurs toute institution, ne peut être compris que par l'indissociabilité de ces deux dimensions. Et je dirais même que ce qui caractérise la singularité de la foi et de l'annonce de l'Évangile aujourd'hui, c'est bien de hisser la voile alors que l'ancre est jetée. En langage marin, c'est impossible. Et après une conférence où j'avais étudié cette image, un skipper a pris la parole, ma père, je voulais vous dire, je suis un passionné, un professionnel de la voile, et si par hasard je jette l'ancre, que je hisse la voile et qu'il y a un grand coup, le bateau va tourner sur lui-même. Il m'a dit cependant, continuez d'utiliser l'image parce qu'elle est belle quand même pour le christianisme. Plus nous sommes éclairés par ce trésor de la parole de Dieu que nous portons, cette richesse infinie de la présence du Christ en nous, plus nous pouvons dire alors, nous pouvons comprendre alors le sens de l'affirmation du Christ à Nicodème, dans Jean, le vent souffle où il veut, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va, ainsi en est-il de celui qui est né de l'Esprit. Toute la tradition biblique va d'ailleurs dans ce sens. Depuis l'arche d'alliance de Moïse, qui sera au cœur de tous les déplacements imprévisibles du peuple de Dieu, jusqu'à la parole libérée des prophètes, d'autant plus forte qu'ils se disaient directement investis de la puissance divine. Et pourquoi ne pas évoquer ici Jésus lui-même et sa grande liberté, on va y revenir, par rapport à la règle inviolable du sabbat, au comportement des pharisiens, parce qu'il était lui, plus que les autres, attaché à la vérité de l'intégrité, de l'intégralité de la loi et au respect du temple. La Pentecôte donnera aux apôtres une totale et nouvelle liberté qui sera d'autant plus grande qu'ils auront reçu ce souffle de l'Esprit, assurance de la présence définitive du Christ auprès d'eux et à eux. La crédibilité du christianisme à tout niveau de ses structures est d'autant plus assurée que les fidèles baptisés et les ministres ordonnés, jusque dans l'organisation des communautés et les plus hautes responsabilités pastorales, ont un solide ancrage doctrinal et spirituel qui seul permet les évolutions et les réformes nécessaires. Il y a toujours eu débat sur ce plan, autour de ce que l'on appelle le dogme ou la tradition dogmatique, c'est-à-dire l'ensemble des définitions doctrinales qui ont progressivement constitué le socle de la religion chrétienne. Nous y reviendrons dans un instant en parlant des racines. Le Concile Vatican II s'inscrira pleinement dans ce rapport entre les fondements et le renouvellement, entre un appui solide sur le socle spirituel et théologique et la nécessité de transmettre le message évangélique dans un langage et des propositions concrètes qui lui permettent d'être compris comme une voie de liberté et de réalisation de soi et du monde. Je citerai volontiers cette expression de Paul dans la lettre aux Romains, j'utilise souvent d'ailleurs pour encourager un peu, nous encourager. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive, en effet, il est écrit, c'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt. Mais j'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni la puissance des hauteurs, ni celle des profondeurs, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ, notre Seigneur. Alors, il ne s'agit pas là d'un optimisme béat ou d'une vision naïve de la vie ou de l'histoire. Je reste d'ailleurs extrêmement réaliste sur ce plan-là. Non, mais simplement la conviction que notre argile ne cesse d'être porteuse d'un trésor de vie et d'amour, et que notre voile est hissée pour nous faire avancer sur des terres nouvelles où nous pourrons jeter l'ancre à nouveau avant de repartir. Alors je reviens aux six harmoniques que nous allons parcourir de la foi chrétienne. Elle est enracinée et fondée dans l'histoire. Elle s'abreuve en permanence aux sources de la vie que sont l'Évangile et la présence du Christ. Elle est vécue en Église et dans les liens des baptisés entre eux. Elle se célèbre et se reçoit pour transmettre le souffle de l'Esprit. Elle traverse l'épreuve, mais donne accès à la paix intérieure et à la lumière. Les grandes questions posées aujourd'hui sur la signification ou la portée de la proposition chrétienne, dans un temps où les changements sont considérables, ces questions ne sont pas vraiment nouvelles. Elles étaient déjà posées dans les cinq premiers siècles et lors de la chute de l'Empire romain. La différence, par contre, vient du développement irréversible de l'environnement scientifique et technologique, des changements de paramètres dans l'ordre économique mondial et l'équilibre planétaire. Autrement dit, les paroles du Christ et les messages de l'Évangile, référence majeure pour notre vie humaine et spirituelle, peuvent réellement et complètement positionner le christianisme dans les grands débats actuels de société. Alors maintenant, je lève l'ancre qui nous avait arrêté un instant pour nous permettre de donner le fil rouge. Je redéploie la voile et nous partons, si l'Esprit le veut bien, là où il le décidera. Premier mouvement, les racines, ou l'histoire et les fondations. Le premier aspect qui apparaît lorsqu'on parle du christianisme, soit en observateur extérieur ou en sociologue des religions, soit de l'intérieur, en fidèle baptisé, pratiquant ou non, c'est son déploiement dans l'histoire et son enracinement dans les traditions religieuses et culturelles. D'où le premier mot-clé de notre parcours, racine. Nous sommes enracinés. Nous ne venons pas de n'importe où. Et les différents fleuves qui ont jusqu'ici traversé plus de 20 siècles de christianisme, de civilisation et de culture, ont au départ la même source et ont porté la parole initiale dans des multitudes de structures, de langues et de rites, sans qu'un seul instant la dynamique humaine et spirituelle soit interrompue. Nous sommes fondés dans l'histoire et comme religion identifiée, nous appartenons de plein pied au terreau spirituel, social et politique de nos contemporains. Et cela depuis la proclamation de la bonne nouvelle par le Christ et le déploiement des premières communautés chrétiennes. Si l'on étudie l'ensemble quasi illimité des documents publiés par l'Église et à tous les niveaux possibles, du 1er au 21e siècle, des lettres de Paul au pape François, des premiers conciles à Vatican II, on ne peut que constater la volonté de ne pas détacher l'annonce de l'Évangile du contenu des diverses sociétés auxquelles il est destiné. Ça permettra au bienheureux Paul VI de dire à la fin du synode, à la fin du concile, pardon, un courant d'affection et d'admiration a débordé le concile, a débordé du concile sur le monde humain moderne. Au lieu de présages funestes, des messages de confiance sont répartis. Et en partant du concile vers le monde contemporain, ces valeurs ont été non seulement respectées, mais honorées. Ses efforts soutenus, ses aspirations purifiées et bénies. Alors il y a cinq aspects qui peuvent traduire le rapport entre le christianisme et le monde et l'histoire. D'abord, un Dieu qui se communique. Parler de révélation pour la tradition chrétienne, c'est dire que Dieu, par un acte libre de sa propre volonté, se donne à connaître à l'homme. Cette révélation a une double dimension, naturelle au sens où l'être humain est par nature ouvert à ce qui le dépasse, et peut donc faire l'expérience de Dieu. C'est ma canne qui est partie, ça veut dire que j'en ai plus besoin. Le prologue de l'Épître aux Hébreux le précise, après avoir à bien des reprises et de bien des manières parlé au Père par les prophètes, Dieu, en la période finale où nous sommes, nous a parlé à nous, en son Fils, qu'il a établi héritier de nous. Deuxième point, le principe incarnation, dans sa dimension historique. Le christianisme repose sur une conviction première que l'on peut ainsi formuler avant tout développement dogmatique. Dieu est totalement présent et pleinement révélé en Jésus de Nazareth. Pour la foi chrétienne, Jésus est Dieu. Cette affirmation est incontournable, quelle que soit par ailleurs la progression dans l'interprétation ou la maturation doctrinale qui ont conduit aux différentes expressions de la foi. Notre credo du dimanche, credo reprenant les termes du concile de Constantinople en 381, dit « Je crois en un seul Dieu, Jésus-Christ, le Fils unique du Père. Il est Dieu, né de Dieu, lumière de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. » La base est inchangée depuis l'origine. À la source de tout, l'expérience personnelle des disciples qui va devenir, à partir de la Pentecôte, sujet d'une proclamation courageuse, celle dans les premiers pas de l'Église. Cette expérience nous est entièrement livrée par les Écritures, et il est bon de préciser dès maintenant que le dogme, lentement et parfois laborieusement formulé, n'ajoutera rien aux éléments immédiatement transmis par la première prédication et consignés dans le Nouveau Testament. Un troisième aspect, je parlerai d'une théologie de l'histoire. Parler d'une théologie de l'histoire, c'est dire que l'on ne peut avoir accès au mystère de Dieu que dans notre histoire et tous les aspects de notre existence. La révélation de Dieu au monde ne soustrait pas au monde, mais d'une certaine façon nous y plonge complètement. Dieu appelle les hommes à faire avec lui leur histoire. L'Église est faite d'hommes engagés dans l'histoire pour témoigner de l'aujourd'hui de Dieu. Il s'agit bien d'une histoire écrite avec des mots et des actes d'hommes, même si elle est riche d'un dessein pensé de toute éternité. Rencontrer Dieu, c'est prendre en compte les réalités vitales et décisives d'une situation, en s'éveillant à une plus grande responsabilité, en avançant sur le chemin de la vérité, en découvrant la dimension de l'amour. Quatrième aspect, il y a une liberté de l'Évangile dans la société. Un texte extrait de la lettre aux catholiques de France, publié par la Conférence des évêques de France, dit ceci: la crise que traverse aujourd'hui l'Église est due dans une large mesure à la répercussion dans l'Église elle-même et dans la vie de ses membres d'un ensemble de mutations sociales et culturelles rapides, profondes, et qui ont une dimension mondiale. Même si nous avons, en tant que chrétiens, à répondre d'une parole de vérité et de vie, nous n'en partageons pas moins la condition commune des hommes et des femmes de notre temps. Nous voilà appelés à aller puiser nous-mêmes aux sources de notre foi le courage et l'espérance nécessaires pour faire face à nos responsabilités, sans crispation ni ressentiment. Nous voilà appelés à proposer librement l'Évangile, non pas comme un contre-projet culturel ou social, mais comme une puissance de renouvellement qui appelle les hommes, tout être humain, à une remontée aux sources de la vie. Voilà sur quel socle historique et quelle fondation repose notre foi chrétienne. Deuxième mouvement, l'Évangile au cœur, ou le mot « source » au pluriel, ou au singulier. Nous abordons ici ce que l'on peut appeler le cœur battant de la foi chrétienne. Ce sans quoi nous ne serions pas ici. Ce sans quoi nous serions toujours en train de chercher la source de ce long fleuve, qu'est l'histoire du christianisme. L'Évangile, au-delà de ces quatre documents qui permettent de connaître la vie et l'enseignement de Jésus, se révèle être un véritable chemin de liberté et de joie, ouvrant sur de fulgurantes perspectives d'espérance et de lumière. Par ces récits concrets, les paroles de Jésus, nous avons accès à Dieu, et nous ne pouvons lire ces textes sans ressentir intérieurement une étonnante impression de vérité, beaucoup plus que de la sagesse à vue humaine, et qui ne satisferait que d'intelligence. Il peut y avoir là une expérience parfois indicible de plénitude. Certes, les fidèles chrétiens lisent les évangiles et l'ensemble des livres du Nouveau Testament dans une attitude de foi, et pendant la liturgie en particulier, ce que l'on appelle la parole de Dieu. Cette parole étant constituée par l'ensemble des livres de la Bible, chaque célébration eucharistique, particulièrement le dimanche, permet un parcours de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais c'est bien la lecture de l'Évangile, c'est-à-dire l'un des quatre livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui conclut comme une forme d'achèvement cette liturgie de la parole. Alors j'aborde trois aspects: des évangiles à Jésus, la prédication du royaume, l'Évangile aujourd'hui ou une nouvelle évangélisation. D'abord, des évangiles à Jésus. Un premier constat s'impose: nous ne connaissons Jésus que par les évangiles. Il existe pourtant d'autres sources faisant état nommément de Jésus. Les plus connus sont des historiens et des écrivains non religieux, comme Tacite, Suétone, Pline le Jeune, ou d'origine juive, comme l'historien Flavius Joseph. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut sérieusement remettre en cause l'existence de l'homme Jésus, de son autorité et de son influence incontestable sur un groupe de disciples. Son enseignement sera nouveau, mais Jésus s'opposera aux autorités du temple et sera livré aux Romains. et crucifié. Mais d'abord, quelques explications sur le mot évangile. Ce terme vient du grec evangelikou, evangelion, signifiant bonne nouvelle. Il est composé de l'adverbe bon et angelo, signifiant annoncer. Ce qui veut dire que c'est toujours en composition qu'il est employé pour caractériser ce que dit Jésus, la bonne nouvelle ou évangile, bonne nouvelle ou évangile. Je donnerai quatre éléments. D'abord, la prédication du royaume. La caractéristique essentielle de l'évangile, c'est d'être une annonce et une proclamation dont la voix est Jésus de Nazareth et dont le contenu est de la proximité du royaume de Dieu. Dans la prédication du royaume, la forme et le fond sont liés. Pour la forme, il s'agit des manifestations externes, psychologiques et sociales de la prédication de Jésus. Sa personne, profonde humanité, sensibilité, s'exprimant souvent avec habileté et humour, son souci pédagogique apparaît dans les paraboles. Il affirme une réelle indépendance et une grande disponibilité, son langage simple de structure poétique souvent et symbolique, utilisant des images quotidiennes. Les signes. Il y a des signes pour la forme aussi. Jésus guérit et visite les malades. Il se déplace en permanence. Il est souvent en opposition à l'esprit du mal. Sa prédication s'adresse à tous sans exception. Jésus va dans tous les milieux. Il manifeste une grande liberté de comportement. Quant à sa réception, il est reçu comme un prophète de grande autorité, mais aussi, assez souvent, refusé et incompris. Voilà pour la forme. Pour le fond de cette prédication du royaume. La réalité de base, c'est l'accomplissement du royaume de Dieu. Jésus annonce le royaume présent, il manifeste qu'il y a dès maintenant, c'est cela, un accomplissement, qui est accomplissement des Écritures. La perspective est eschatologique, voilà un gros mot. Enfin, eschatologique, ça veut dire que dès maintenant, nous vivons une anticipation de la vie éternelle à laquelle Dieu nous a destinés. C'est ça la perspective eschatologique. Pour le fond, donc, je viens de le dire, c'est l'accomplissement du royaume de Dieu. Le Christ également a un rôle central. Jésus est l'héritier, le garant personnel du royaume. Il est le don de Dieu par amour. Il est le guide ou le berger, la voie, la vigne, l'accomplissement de la loi. D'où la nécessité de se conformer à lui et à sa parole. Quant aux thèmes, les principaux thèmes de cette prédication du royaume, ce sont l'amour, la charité, la foi et la prière, la miséricorde et le pardon, l'accueil des pauvres, des pécheurs et des humbles, la vérité, la lumière, la nourriture, la liberté, la paix et la confiance. Voilà. L'unité, important. L'appel au rassemblement et à l'unité est une constante de la prédication de Jésus. Alors, cette prédication du royaume, que peut-on dire aujourd'hui? C'est un troisième point, l'évangile aujourd'hui. Ou nouvelle évangélisation, point d'interrogation. Parler de l'Évangile aujourd'hui, c'est le faire sur deux plans qui sont d'ailleurs indissociables. Le premier plan, c'est de constater, selon les mots de Maurice Bellet, que le vieil Évangile est toujours vivant. J'aimais bien cette parole de Maurice Bellet. Le vieil Évangile est toujours vivant. Deuxième plan, c'est d'être persuadé que cet Évangile a toutes les ressources nécessaires et indispensables pour que le message du Christ soit transmis aux générations futures et au monde à venir. Autrement dit, l'Évangile aujourd'hui et l'Évangile demain. C'est ce que l'on appelle habituellement la nouvelle évangélisation. Ne faut-il pas rappeler en effet que l'évangélisation, c'est à proprement parler l'annonce de Jésus le Christ et de son Évangile, est indissociable de l'Église depuis les origines, certes. Nul ne peut se dire membre de ce corps qu'est l'Église s'il n'est pas disciple et témoin de Jésus, s'il ne parle pas de lui, s'il ne proclame pas sa foi. Il en est de même pour l'Église, dont la vocation n'est pas de s'annoncer elle-même, quel risque nous prendrions, ou de se rendre témoignage à elle-même, mais de révéler Dieu au monde, de conduire au Christ et de transmettre le souffle de l'Esprit qui la traverse et le message fondateur qui la structure. L'Église est finalisée, non pas d'abord par son équilibre institutionnel, interne, encore qu'il ait son importance, mais par sa mission reçue en permanence du Christ, annoncer la bonne nouvelle au monde, avec ses conséquences spirituelles, culturelles et morales. Troisième mouvement, la foi en l'Église ou aimer l'Église, avec le mot « lien », les liens. Nous avons rappelé jusqu'ici combien la foi chrétienne est inscrite enracinée dans notre histoire et continue de se déployer à partir de la source unique qu'est l'évangile du Christ. Cet évangile qui révèle pleinement au cœur des humains le Dieu d'amour, créateur de l'univers. Nous nous posons maintenant la question de l'Église. Quelle est la réalité de cette Église ? Que représente-t-elle vraiment, tant pour les fidèles baptisés qui la constituent que pour celles et ceux, et ils sont foules, qui sont étrangers au christianisme ou non-croyants ? Si elle relie les baptisés les uns aux autres, tout en les reliant au Christ, d'où le mot « lien » que j'ai retenu pour caractériser notre démarche, est-ce qu'elle est perçue comme telle ou simplement comme une institution semblable aux autres, avec ses logiques internes, ses conflits de pouvoir ? Il y a certes dans l'Église une inévitable dimension institutionnelle et des structures nécessaires de gouvernement, de fonctionnement, mais elles ont dans le cas présent une finalité spirituelle au service des hommes et des femmes de notre temps. D'ailleurs, le texte du Concile Vatican II le dit « dans l'Église, dans le monde de ce temps ». Je tiens à préciser de suite que je parle ici de l'Église par rapport au christianisme et dans une perspective largement œcuménique, on en reparlera tout à l'heure. Quelles que soient les traditions catholiques, réformées, anglicanes ou orthodoxes, il s'agit d'une Église indissociable du christianisme, dans le monde et dont la mission est d'annoncer et de répandre l'Évangile de Jésus, le Christ, dont nous venons de parler. Les épreuves traversées aujourd'hui par l'Église, elles sont nombreuses, vous le savez, viennent autant de l'intérieur d'ailleurs que de l'extérieur, autant de ceux qui sont envoyés pour transmettre la bonne nouvelle de l'Évangile que de ceux qui l'ignorent ou la refusent. Pourtant, si nous portons un trésor dans nos vases d'argile, si nos vases peuvent se briser ou que le trésor ne soit qu'une illusion ou un faux pour beaucoup, il n'en reste pas moins un trésor intact et restant source de vie, même entre nos mains polluées. Aimer l'Église, infinitif, aimer l'Église, c'est effectivement voir à travers son histoire et son institution une effusion permanente de vie et de lumière. C'est lire à travers les aspérités de son histoire ou les contradictions humaines de son développement la permanence d'un message de paix, de vie et de réconciliation. Aimer l'Église, c'est faire le choix de la comprendre de l'intérieur et d'entendre sur le terrain même de nos ruptures, de nos remises en cause et de nos conflits, une parole qui nous dit en permanence la stabilité même de Dieu. Je développe brièvement trois aspects. Le paradoxe de l'Église, la liberté de l'Église, la mission de l'Église. Le paradoxe de l'Église, c'était Henri de Lubac, le théologien, qui écrivait « L'Église est humaine et divine, donnée d'en haut et venue d'en bas. Les hommes dont elle se compose résistent de tout le poids d'une nature lourde et blessée à la vie qu'elle s'efforce de faire pénétrer en eux. Il est vrai que la première et plus forte impression que donne l'Église, c'est son paradoxe. Sainte et humaine. Sainte, je pense à l'Apocalypse, bien sûr. J'ai vu la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu. Elle brillait de la gloire même de Dieu. L'Église est sainte, avant tout parce que par le Christ, elle vient de Dieu et elle conduit à Dieu. On pourrait tout autant dire que l'Église est divine dans son humanité. Corps dont le Christ est la tête, communion dont l'Esprit Saint assure la stabilité, la communication interne. L'histoire de l'Église est enracinée, on l'a vu tout à l'heure, dans la longue histoire de la Bible, indissociable. Si son premier souffle comme Église du Christ vient de la Pentecôte, sa mémoire la plus ancienne est bien celle du peuple de Dieu en marche vers la terre promise. Elle est pour tout homme, toute civilisation, toute culture, le lieu et le temps mystérieux où s'entrecroisent sans semence constamment le passé et l'avenir. Sainte certes, mais humaine aussi, l'Église est humaine. Je reviens au paradoxe de Paul, ce trésor dont le portons dans les vases d'argile. Pour que cette incomparable puissance soit de Dieu et non de nous. L'Église est humaine parce qu'elle est faite d'hommes et de femmes, appelés par Dieu, là où ils sont, tels qu'ils sont. La sainteté n'empêche pas la fragilité de l'humanité, attention. Ce constat peut paraître banal et pourtant il est incontournable. Certes, c'est Dieu qui a l'initiative de l'appel, c'est lui qui choisit son peuple. C'est Jésus qui appelle les premiers disciples, mais l'Écriture n'a jamais caché les risques que courait le message à être confié à des pécheurs, à nous. Le paradoxe atteint ici son point culminant. La révélation n'est possible que par celle s'inscrit de plein pied dans l'humanité. Ici apparaît également la spécificité radicale du christianisme, qu'indique déjà le prologue de saint Jean, le Verbe s'est fait chair. Personne n'a jamais vu Dieu. On oublie ce final du prologue, toi. Personne n'a jamais vu Dieu. Et ça continue, hein. Si quelqu'un vous a dit j'ai vu Dieu, vous me l'amenez. C'est intéressant. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a dévoilé. Il s'agit bien de ce que nous appelons l'incarnation, Dieu dans la chair. L'Église n'existe qu'en perspective humaine. Et de Lubac précisera encore, l'Église a pour unique mission de rendre Jésus-Christ présent aux hommes. Elle doit l'annoncer, le montrer, le donner à tous. Le reste n'est que surcroît. Église du paradoxe, et deuxième point, alors la liberté de l'Église. La liberté, l'Église est libre. Passage des Actes des Apôtres que nous connaissons, nous ne pouvons certes pas, quant à nous, taire ce que nous avons vu et entendu. C'est ce que dira le début de la première lettre de saint Jean. La réaction de Pierre et de Jean devant le tribunal de Sanhédrin évoque bien la liberté, le courage qui marque le témoignage chrétien dans le monde, dès l'origine. Et il est vrai, dans et pour l'Église, qu'affirmer sa foi chrétienne aujourd'hui et s'engager fermement dans la construction de la paix ne va pas sans risque. Certes, ces risques sont différents et vont de la simple ironie, de l'indifférence ou du refus jusqu'aux discriminations violentes, à la menace ou à la mort. Mais la persécution n'est pas seulement un fait du passé, nous le savons, elle est restée sous de multiples formes d'une douloureuse actualité. La mission de l'Église est placée dès le départ sous le signe de l'épreuve. J'aime bien l'image du combat de gladiateurs de saint Paul. Pressés de toutes parts, nous ne sommes pas écrasés. Dans des impasses, mais nous arrivons à passer. Pourchassés, mais non rejoints. Terrassés, mais non achevés. Si parler de Dieu ne change rien à l'existence, si la foi n'était qu'un dérivatif, un jeu de l'esprit, une coquetterie spirituelle, rien à craindre. Les vrais enjeux seraient ailleurs. Les menaces ou les critiques ne fuseraient pas. On ne tire pas sur des joueurs de cartes. Mais voilà qu'il en est tout autrement. Dans l'acte de foi, Dieu est affirmé comme garant de la libération totale de l'homme. Face aux grands déséquilibres économiques, face aux ambiguïtés de certains progrès techniques, aux violations constantes de la paix, mais aussi aux nouvelles questions éthiques posées par les évolutions sociales et culturelles, l'intégrité de la foi peut conduire à de vifs débats, voire à des oppositions catégoriques. Les échanges parfois rudes provoqués lors de publications de certains documents officiels ne cessent de le montrer. Le témoignage de l'Église est en faveur de la paix et du respect des droits de l'homme, et il ne se contente pas de demi-mesures. Il est fait pour aller jusqu'au bout. La foi et le courage. Peut-il y avoir l'un sans l'autre? N'oublions pas que martyr, le mot martyr vient d'un mot grec qui signifie témoignage, témoin. En fait, un troisième point, la mission de l'Église. Saint Marc, chapitre 1. Les disciples lui dirent tout le monde te cherche. J'aime beaucoup ce texte-là. Et il leur dit, allons ailleurs. Pour leur dire, oui, je reviens. Non, pas question. Allons ailleurs. Dans les bourgs voisins, pour que j'y proclame aussi l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. L'activité missionnaire est inscrite dans la nature même de l'Église, ce que l'on peut appeler, sur un autre registre, donc l'évangélisation. Il ne s'agit pas d'une charge parmi d'autres confiée à la communauté, mais de la charge par excellence, celle qui identifie la communauté comme elle a identifié le Fils venu dans le monde pour que le monde croie. N'oublions pas dans le discours... Le dernier discours de Jésus avant la Passion, chapitre 17 de saint Jean, il s'adresse à Dieu et il dit « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Je reviens parfois sur ce passage. « J'ai achevé, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné. » C'est ça l'œuvre essentielle. Ce n'est pas sans raison que Paul dira « Malheur à moi si je n'évangélise pas. » Mais on le rejoint en pleine figure, ça. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Toutes les lettres de Paul sans exception, comme l'ensemble du livre des Actes, sont traversées par une dynamique d'évangélisation qui est le contenu exact de la mission de l'Église. Dieu se donne au monde et se communique aux hommes par la médiation de nos langages, de nos paroles, soutenues par la conviction de la foi. À aucun moment de l'histoire biblique et du christianisme, on est revenu sur cette certitude. Dieu s'annonce. Sa parole se transmet, il faut parler. Nous vivons dans un temps où les moyens de communication se développent vertigineusement. et d'une façon de plus en plus sophistiquée. Depuis plusieurs décennies, l'Église a pris conscience que la transmission de la foi, la communication de Dieu dont elle est familière depuis l'origine, doit utiliser les outils mis à disposition des institutions et des personnes. Pie XII, déjà, qui a créé la Radio Vatican, Pie XII avait compris cela. Il a beaucoup parlé sur cette question, relayée par la suite, bien sûr, par Jean XXIII et les autres. Certes, nous ne le faisons pas sans discernement, tout cela, l'ultra-communication. Et le rappel de la croix du Christ évoque en nous la double et indissociable perspective qui caractérise le message chrétien. Nécessité et humilité. Pertinence et amour, l'un ne va pas sans l'autre. Et l'urgence est bien là. Et personne ne peut y échapper. La parole de Dieu et l'évangile du Christ doivent avoir accès au sens des propositions les plus concrètes de notre temps. Cela avec l'appui de notre prière et de nos convictions de disciples. Comment ne pas évoquer l'un des plus grands documents pontificaux du dernier siècle, l'exhortation de Paul VI sur l'évangélisation, Evangelii Nuntiandi. Le pape dit « L'Église est tout entière évangélisatrice ». Cela signifie que pour l'ensemble du monde et pour chaque portion du monde où elle se trouve, l'Église se sent responsable de la tâche de diffuser l'Évangile. Quatrième mouvement, continuons. Prière et liturgie, ou le mot « souffle », au singulier ou au pluriel. Souffle. Il s'agit maintenant de rappeler comment nous avons pu tenir et structurer notre vie spirituelle. Quel souffle ininterrompu nous a poussé vers le large et permis de repartir ou de renaître à chaque moment de remise en question, d'hésitation ou de rupture. Tel a été le rôle de la prière personnelle et son expression communautaire dans la liturgie de l'Église. L'Église est née le jour de la Pentecôte, dans le souffle de la résurrection. Elle s'est structurée autour de la célébration régulière de la Pâque tout de suite, dès le premier soir, on peut dire. La liturgie, sous ses différentes formes, et compte tenu de son évolution dans l'histoire, est bien au centre de la vie ecclésiale. Il n'y a pas de foi chrétienne sans qu'elle soit célébrée dans la rencontre avec Dieu, le lien du ressuscité, au ressuscité et la disponibilité au souffle de l'Esprit. Mais cette disponibilité au souffle de l'Esprit est à l'instant même un envoi, car le chrétien est envoyé, quelles que soient les épreuves ou les difficultés incontrôlées ou rencontrées dans le monde, le chrétien est envoyé pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. La réflexion que nous venons de faire sur jusqu'ici nous conduit logiquement à ce que nous pourrions considérer comme le sommet de la prière et de la vie liturgique, le sacrement de l'Eucharistie. Déjà le Concile affirmera cela en disant que l'Eucharistie est bien la source et le sommet de toute l'évangélisation. Pendant notre messe, notre Eucharistie, nous célébrons, nous recevons le pain de la vie et le vin du royaume éternel, comme les rappellent les paroles de l'offertoire, juste avant la grande prière eucharistique. Nous entrons par la célébration, et quel que soit l'endroit où elle se réalise, dans un temps sacré, en proximité immédiate du Christ réellement présent, de l'Esprit libérant et régénérateur, et du Père créateur. Nous sommes immergés dans l'amour, mais un amour qui ne nous éloigne pas du monde, loin de là, un amour qui nous envoie. Nous nous sommes souvent trompés en pensant que la formule « ite missa est » qui clôturait l'ancienne liturgie en latin, aujourd'hui fort heureusement nous disons « aller dans la paix du Christ », nous pensions que « ite missa est » voulait dire « allez, la messe est dite ». Grave erreur, non seulement de traduction, mais de compréhension, car « missa » en latin ne veut pas dire « messe », mais « envoi », du verbe latin « mittere », signifiant « envoyer, lancer ». Donc, « ite missa est » devrait être traduit alors par « allez, l'envoi est fait ». Fort heureusement, la liturgie actuelle fait dire aux célébrants « allez dans la paix du Christ ». La liturgie ne nous enferme pas, ne nous replie pas sur nous-mêmes. Elle renouvelle et renforce notre dimension missionnaire. Le pain que nous consommons et que nous intégrons à notre propre vie est un pain vivant, vivant. Nous sommes habités par le Christ et envoyés par lui. J'aime beaucoup ces paroles du regretté père jésuite Gustave Martelet qui disait « Qui pourra préciser les limites sociales, économiques et politiques d'un tel réalisme eucharistique ?» La vraie révolution doit sortir des repas du Seigneur et personne ne devrait pouvoir arrêter les conséquences transformantes que ce mystère impose à la structure historique du monde. Ce qui caractérise la prière chrétienne, C'est avant tout le fait qu'elle est un dialogue avec Dieu, un dialogue rendu possible dans toutes ses dimensions et toutes ses formes. La prière chrétienne n'est pas n'importe quelle attitude spirituelle, elle est relation à Dieu, échange dynamique dans lequel l'homme donne autant qu'il reçoit, présence de l'homme en Dieu autant que présence de Dieu en l'homme. Ce que nous appelons la transcendance, ce n'est pas une abstraction, ça se vit et ça se dit. La transcendance, c'est la parole de Dieu pour l'homme, perçue par l'homme. La prière et la liturgie sont rencontres du Christ. Si notre tradition, comme le rappelle le signe de la croix, est trinitaire au départ, c'est par le Christ que nous avons accès au Père, et c'est l'Esprit Saint qui nous permet de dire que Jésus est le Seigneur. Notre prière, tout en s'inscrivant dans la longue tradition des psaumes, devient rencontre du Christ, rencontre personnelle du Christ et du Christ ressuscité. Notre prière devient alors, quelle qu'en soit la forme ou la durée, un acte d'amour, une relation d'amour. Jésus est au centre de la relation, de la révélation trinitaire de l'amour. Cette rencontre avec le Christ, nous, catholiques en particulier, nous la signifions dans la tradition de l'adoration, ou prière d'adoration devant le Saint-Sacrement. Quelle que soit la forme de son exposition, l'hostie est bien le corps du Christ et représente à elle seule le corps et le sang du Christ. Il y a une véritable rencontre avec celui qui nous aime, mais qui ne nous garde pas pour lui et qui nous envoie. Mystérieuse dimension missionnaire de l'adoration. Il s'agit d'un cœur à cœur avec le ressuscité, un temps privilégié pendant lequel notre prière peut prendre différentes formes, du silence aux mots spontanés issus de notre cœur, récitation des psaumes, qui alors prennent une dimension christologique. Mais tout cela dans une perspective missionnaire, ne l'oublions jamais. On approche du sixième mouvement. Cinquième mouvement, traversé, ou déchirure et transfiguration. Le christianisme est depuis les origines confronté à de multiples et incessantes épreuves, face auxquelles il reste stable et fidèle à l'évangile de Jésus, qui lui permet non seulement de tenir, mais de diffuser dans le monde son message de paix. Si le terme de déchirure, que j'utilise consciemment, renvoie d'abord à nos expériences humaines, celui de transfiguration a immédiatement une connotation religieuse, indiquant le changement miraculeux dans l'apparence du Christ, il fut transfiguré devant eux. Pourtant, dans les évangiles synoptiques, rapportant l'événement de la transfiguration, on note quelques versets plus loin que Jésus annonce en même temps sa passion et sa mort. Le Fils de l'homme sera livré aux mains des hommes, ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Comment voulez-vous qu'ils comprennent cela, ceux qui sont montés avec lui sur la montagne de la transfiguration? Mais ça veut dire qu'il y a un lien définitif entre la transfiguration et la déchirure de la mort. Il y a bien dans l'évangile de multiples traversées, dont l'ultime sera l'épreuve de la passion et de la mort. Si dans le message de Jésus, comme dans ses actes, le don de la vie par Dieu triomphera de toute forme de mort, c'est pour appeler au cœur même de la révélation qu'aucune rupture, aucune déchirure, aucune destruction n'empêchera la lumière et la gloire de Dieu de transformer de l'intérieur toute vie humaine, toute créature, toute réalité créée par Dieu. Déchirure et transfiguration, ombre et lumière, mort et naissance, péché et grâce. Toute existence humaine est une longue traversée, jalonnée de doutes et de résignation, longue route traversant échec et réussite, mais aussi de grands espaces sans relief ou sans soleil. Pourtant, l'existence, en dépit de toutes les provocations et incertitudes dont elle est le terrain, est un lieu d'illumination, de révélation de l'absolu, un lieu de transfiguration. Nous savons trop bien ce qu'est la déchirure, mais savons-nous ce qu'est la transfiguration? Transfigurer signifie changer de figure sous la même apparence. Jésus transfiguré, c'est toujours Jésus. Un homme et une femme transfigurés par leur amour restent toujours un homme et une femme. Un paysage transfiguré par le soleil reste le même paysage. Un visage brisé, transfiguré par la confiance, garde ses blessures apparentes. Pourrions-nous même oser dire que la transfiguration est proportionnelle à la déchirure ou la lumière à l'épaisseur de la ténèbre. Comme si elle voulait à tout prix, à tout moment, raviver la clarté originelle, qu'aucune turbulence, aussi forte soit-elle, ne saurait empêcher de réapparaître. Aucun système idéologique, aucune tradition spirituelle n'ont pu nier que l'aventure humaine était un perpétuel champ de tension et d'efforts. Une succession de seuils et de passages, soit dans une perspective cyclique d'éternel recommencement, soit dans le sens d'une véritable progression vers un plus-être, une réalisation ultime, une sorte d'accomplissement spirituel de toutes les énergies maintenues et rassemblées au cours d'une vie. Alors ici, le message du christianisme et la parole audacieuse des mystiques et des prophètes viennent en quelque sorte croiser au moins partiellement le sens commun. Pour la foi de la première communauté, de toute l'Église, l'événement de la croix va devenir, à la lumière de la résurrection, un véritable foyer de compréhension. Il y aura une relecture pascale de la mort de Jésus et la découverte à travers cette mort d'un autre visage du Dieu vivant. La croix devient une parole, un langage sur Dieu. Saint Paul osera le dire aux Corinthiens, le langage de la croix, logos, le langage de la croix est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui sont en train d'être sauvés, elle est puissance de Dieu. Le lieu de la rupture devient événement de la force de Dieu. Le lieu de l'incompréhension devient celui de la nouvelle connaissance. La croix est totale manifestation de Dieu dans l'imprévisible et la liberté de son dessein universel. Défi aux puissances organisées du monde, qui sont remises en question, déstabilisées, traînées dans son cortège triomphal. Changement radical et inversion de nos références. La croix devient signe de croissance par le rapport inattendu qu'elle introduit entre l'amour créateur et le détachement, entre l'énergie et l'abandon de soi. Elle devient signe de non-violence en plein cœur de la violence. Après la nuit obscure, dira Edith Stein, se met à réveiller, à rayonner, la vivante flamme de l'amour. Sixième mouvement, ce sera plus bref, mais aussi intense. Lumière, lumière, ou l'art comme déchiffrage du mystère de l'humanité. Je voulais terminer là-dessus. Il est heureux que, dans toutes nos instances d'éducation et de formation, tant sur le plan civil que religieux, on rappelle l'importance non seulement du patrimoine artistique de nos civilisations, mais du rôle effectif que peuvent avoir l'expression symbolique et le langage de l'art dans la construction de la réalisation d'un monde où la paix, l'amour et l'espoir sont plus forts que la violence, la mort ou la démission. Et c'est bien là que la foi chrétienne et toute la tradition chrétienne ont un rôle majeur à jouer. Non seulement en soutenant le travail des artistes, mais en développant une véritable théologie de la beauté comme approche du mystère de Dieu. Je pense à ces paroles de saint Augustin, « Bien tard je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle. » Bien tard, je t'ai aimé. Et voici que tu es au-dedans, et moi au-dehors. Et c'est là que je te cherchais. Tu as appelé, tu as crié, tu as brisé ma surdité. Tu as brillé, tu as resplendi, tu as dissipé ma cécité. Tu as resplendi, tu as embaumé. J'ai respiré, et haletant, j'aspire à toi. J'ai goûté, et j'ai faim, et j'ai soif. Tu m'as touché et je me suis enflammé pour ta paix. Le pape Jean-Paul II le rappelle dans sa lettre aux artistes, document reçu avec joie, partant de ceux qui, quelle que soit l'importance du patrimoine artistique religieux, se sentaient encore en marge, ou regardaient avec quelque méfiance par le monde des clercs ou de la hiérarchie catholique. À vous, artistes, eh bien, rendez-nous service, mais restez dans les normes. Autant demander à un artiste d'enfermer un rayon de soleil dans une boîte d'allumettes, sans y mettre le feu. Voici ce qu'écrit le pape Jean-Paul II. Personne mieux que vous, artistes géniaux, constructeurs de la beauté, ne peut avoir l'intuition de la passion avec laquelle, à l'aube de la création, Dieu a regardé l'œuvre de ses mains. La société a besoin d'artistes, comme elle a besoin de scientifiques, de techniciens, d'ouvriers, de personnes de toutes les professions, des témoins de la foi, de maîtres, de pères et de mères, qui garantissent la croissance de la personne et le développement de la communauté à travers cette très haute forme de l'art, qui est l'art de l'éducation. Dans le vaste panorama culturel de chaque nation, les artistes ont leur place spécifique. Non seulement ils enrichissent le patrimoine culturel de chaque nation et de l'humanité entière, mais ils rendent aussi un service social qualifié au profit du bien commun. Toute forme authentique de l'art est à sa manière une voie d'accès à la réalité la plus profonde de l'homme et du monde. En conclusion générale, je reviendrai sur ces paroles de Jésus aux disciples dans Saint Jean à la fin de la rencontre avec la Samaritaine. Levez les yeux et regardez, les champs sont blancs pour la moisson. Ici se rejoignent l'espoir maintenu en l'avenir du monde et l'espérance nourrie en nos cœurs par la présence du Christ, présence, source inaltérable de joie. L'évangile qui a guidé notre démarche est un puissant ferment de bonheur et d'espérance, de progrès, de confiance et de responsabilité. Non, le christianisme n'est pas d'abord, comme certains le disent trop vite, une religion de la souffrance ou du sacrifice. Si elle intègre en leur donnant sens, souffrance et sacrifice, c'est-à-dire don de soi, elle est d'abord une religion de l'amour. Un gigantesque acte de foi en Dieu, en l'humanité et dans le monde présent et à venir. Nous ne sommes pas les empêcheurs de vivre ou d'aimer, des nostalgiques ou des compassés, que de procès d'intention dénotant bien souvent une ignorance aveugle de la réalité chrétienne et de grands mouvements de l'histoire. Que de procès d'intention nous ont été faits. Levez les yeux et regardez. Tout est à vivre, à poursuivre, à créer. Tout est à tout moment à enfanter. Nous nous battrons de toutes nos forces contre l'adversité, les fatalités, les vents contraires. L'ancre est jetée, mais nous hissons la voile en permanence. Mystère et paradoxe de l'enracinement et du grand large. Dieu vient de l'avenir, comme disait si bien Pierre Talec. L'esprit nous conduit vers des terres constamment nouvelles. Les champs sont aujourd'hui sociaux, éthiques, politiques, spirituels, scientifiques et artistiques. Ils ont les visages de toutes les races, de tous les peuples, de toutes les conditions humaines. Moissonnés ou détruits, ils blanchissent ou ils flambent. Mais nous sommes dedans, nous sommes dedans. Levez les yeux et regardez. Exorcisez la peur. Christ est là, qui appelle et proclame la parole de vie. Christ, hier, aujourd'hui, demain et pour toujours. Levons donc les yeux. Le jour se lève. Oui, il va se lever. La terre n'en finit pas de naître et de renaître au rayon de l'éternité. Merci.
L'ancre et la voile, fondement et liberté du christianisme, vous venez de suivre une conférence de Mgr André Duplex, théologien, recteur honoraire de l'Institut catholique de Toulouse, conférence enregistrée le 5 avril 2024 à Pau dans le cadre de Foi et Culture.